Aux petits soins de nos clients dans plus de 14 pays d'Afrique, Suno Assurance vous fait profiter d'une assurance santé toute option, où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler des troubles urinaires, des dysfonctionnements liés à la miction, à la vessie, irritation, brûlure, incontinence, énurésie, difficulté à uriner, problèmes locaux symptomatiques d'une infection plus générale ou troubles ponctuels, récidivants. Un certain nombre de ces maladies urinaires restent tabous compte tenu de ces interdits associés à la sphère urogénitale et des difficultés culturelles associées à la pudeur. Aborder certains besoins physiologiques, ce n'est pas toujours évident, à l'exception bien sûr de ces besoins chez les tout-petits, en particulier au moment de l'acquisition de la propreté. Mais dès l'adolescence, ces questions, on en parle de moins en moins ouvertement, et pourtant, une infection comme la cystite est des plus communes, elle touche sans distinction enfants, adultes, hommes ou femmes, causes physiologiques, conséquences d'autres pathologies. Certains conseils peuvent vraiment aider à prévenir la prolifération des germes, les traitements existent, alors si vous êtes concerné, n'hésitez pas à nous appeler, notre numéro 33 84 22 75 75 ou laissez-nous un message sur notre page Facebook. Et en studio avec nous pour répondre à toutes ces questions, docteur Sabrina Benbouzid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Tenon à Paris. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne du Cameroun le docteur Cyril Kamadjou, chirurgien urologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Mission chirurgicale pour prendre en charge les conséquences d'accidents domestiques particulièrement destructeurs, les sténoses caustiques de l'œsophage, quand les enfants ingèrent des produits d'entretien à base de soude. Mission organisée au Mali par la chaîne de l'Espoir. Et nous retrouverons en fin d'émission pour en parler le professeur Sadio Yena, chef de service à l'hôpital du Mali, qui coordonne cette initiative.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Sabrina Benbouzine, au cours de cette émission, on va parler des troubles urinaires qui se traitent en tant que tels, mais il faut le souligner d'emblée, d'autres signes constituent en fait des sortes de signaux d'alarme, des symptômes d'autres maladies.
Tout à fait. Il faut savoir que, par exemple, si on augmente sa fréquence d'uriner, c'est-à-dire qu'on se met à faire pipi plus souvent la nuit, on se met à avoir du sang dans les urines, ça nous brûle, on a du mal à retenir ses urines lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue. Tous ces symptômes doivent amener à consulter un urologue, en fait, pour faire le point un petit peu sur la pathologie, voir ce qu'on peut corriger, voir ce qu'on peut améliorer et éventuellement guérir pour que, à ce moment-là, on ait à nouveau une qualité de vie, un confort, parce qu'effectivement, se faire pipi dessus ou aller plus fréquemment, ça entraîne un handicap social au bout d'un moment et ça met la personne dans détresse. Puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on va pas forcément parler
dans son entourage.
Dans son entourage,
c'est pas facile à
dire. On a honte ou on prend sur soi. Donc non, à partir du moment où on a une modification de ces symptômes et qu'on voit que ça dure dans le temps, il faut consulter.
Par exemple, quand on dit diabète et urine fréquente, pourquoi ?
Alors, parce que quand on est diabétique, on va avoir un déséquilibre de la glycémie, ce qui va entraîner qu'on va se mettre à boire beaucoup plus d'eau, mais de façon assez importante, parce qu'on a une soif qu'il va falloir étancher. Et du coup, ça va entraîner une augmentation de la fréquence mictionnelle, une augmentation des envies d'aller aux toilettes. Et donc là, il faut consulter, effectivement, dépister un diabète.
Et dans ce cas-là, on allait voir un urologue, on va peut-être ensuite être conduit vers un endocrinologue. Est-ce que ça veut dire, par exemple, dans certains cas, justement, quand on n'a pas un urologue à portée de main, on va dire, à proximité, on peut quand même aller voir un généraliste?
Complètement. Il faut d'abord aller voir son généraliste, c'est lui qui va débrouiller le terrain, parce qu'effectivement, là, si c'est un diabète, la prise en charge, elle va passer par la correction de ce diabète, et du coup, le problème urinaire va se résoudre. Par contre, si c'est un problème urologique pur, le médecin généraliste va vous demander de consulter un urologue lorsque ça devient plus compliqué et qu'il ne peut pas vous aider avec certains traitements comme des antibiotiques, des choses comme ça.
On disait tout à l'heure ce genre de sujet, docteur Sabrina Benbouzid, on a parfois du mal à en parler. D'ailleurs, c'est une partie du corps qu'on ne connaît pas forcément. Mm-hmm. Le vocabulaire, cette anatomie de l'appareil urogénital, digital, en l'occurrence Uro, quand on parle de ces choses-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle partie justement de l'anatomie est impliquée dans ces troubles urinaires?
Alors, ça va commencer par le rein. Avec le rein, il y a des petits tuyaux qui vont permettre l'écoulement des urines, qu'on appelle les uretères. Ça va jusque la vessie, donc ça peut être le siège de calcul. On peut également avoir des tumeurs qui peuvent se développer dans cette zone-là. Ça va être la vessie. Ensuite, chez l'homme, on aura la prostate sous la vessie. Ensuite, on a le canal urinaire, ce qu'on appelle l'urètre, qu'on a également chez la femme. Chez l'homme, l'urètre est beaucoup plus long. Chez la femme, il va faire 2 à 3 centimètres. Donc, c'est pour ça que les femmes, elles vont faire des cystites, alors que chez l'homme, on va parler de prostatite. Parce que le chemin, c'est les bactéries qui remontent du méa, c'est l'orifice par lequel on fait pipi, jusque dans la vessie. Et chez l'homme, il y a la prostate entre le canal par lequel on fait pipi, enfin l'orifice par lequel on urine et la vessie. Tandis que chez la femme, on n'a que le canal urinaire. Donc du coup, on a d'emblée la vessie, donc on parle de cystite à ce moment-là.
On parlait tout à l'heure des signes. Il peut y avoir donc des douleurs, des brûlures. Il y a également l'élément de la coloration. Certains se demandent, est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il faut en parler à son médecin lorsque les urines changent de couleur, docteur Benbouzid?
Oui, lorsque les urines changent de couleur, alors notamment lorsqu'elles deviennent rouges. Lorsqu'on a des urines, du sang dans les urines, ce n'est pas normal. Il faut en parler avec son médecin. Ça peut être le signe soit d'une infection, soit également d'une tumeur. Vous avez certains tumeurs du rein qui vont se mettre à saigner et du coup on va avoir du sang dans les urines, sans brûlure, sans envie plus fréquente d'uriner, sans cette crampe au niveau de la vessie. Donc ça doit alarmer le médecin.
Et il y a aussi des personnes qui peuvent avoir des problèmes urinaires sans douleur, des affections, on va dire, silencieuses. Comment, dans ce cas-là, on s'en rend compte, docteur Sabrina Benbouzid? Je pense en particulier à la cystite. La cystite, les gens ont l'image en tête de ces brûlures, de ces douleurs très désagréables, hein, qui empêchent quasiment de vivre au quotidien. C'est totalement obsédant comme douleur. Et puis, il y a d'autres personnes, d'autres femmes en particulier, qui ont des cystites, donc des germes, un problème dans leur santé, et elles ne ressentent rien. Pourquoi?
Ça dépend le degré de sensibilité de chacun. Vous avez des femmes, à partir du moment où elles vont uriner plus fréquemment, elles vont ressentir la douleur différemment. Vous avez des femmes, elles vont pas ressentir la douleur de la même façon. Par contre, les urines vont être troubles, elles vont sentir plus mauvais. Et ça, par contre, c'est un signe qui est constant chez tout le monde, en fait. Donc c'est souvent le motif de consultation. C'est pas la douleur, les envies plus pressantes, c'est par contre le fait d'avoir des urines troubles, qui sentent pas bon, qui vont, elles, les alarmer.
Est-ce qu'il y a des infections urinaires qui sont plus fréquentes à certaines périodes de la vie? Je pense en particulier à la grossesse.
Tout à fait. Alors on a deux périodes chez la femme où on va faire des cystites. C'est le démarrage de l'activité sexuelle et c'est l'entrée en période de ménopause. Et entre, effectivement, il y a la grossesse. Pourquoi? Parce que l'imprégnation hormonale, elle est complètement différente. Et donc, du coup, ça va favoriser la survenue de cystite. Parce que comme on a un bébé, notre système immunitaire, il va être un petit peu endormi, justement, par rapport à toutes ces modifications. Et donc, on a l'imprégnation hormonale qui est différente et ça va favoriser la survenue de cystite. Donc, d'autant plus chez les femmes qui ont l'habitude de faire des cystites, elles vont encore majorer leurs symptômes. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus grave parce que ça peut entraîner des fausses couches, des pyélonéphrites. C'est une infection avec un abcès au niveau du rein, donc ça peut être très grave. Donc, c'est pour ça que les femmes, on va leur faire des bandelettes urinaires tous les mois pour s'assurer, notamment certaines femmes, comme elles ne ressentent pas les brûlures, la modification. Donc on va vraiment s'assurer qu'elles ont, grâce à la bandelette, qu'elles n'ont pas d'infection sous-jacente et qui passe inaperçue.
Infection, bactéries, ça veut dire forcément, docteur Benbouzid, antibiotiques?
Pour la femme enceinte, ça veut dire forcément antibiotiques.
Et pour une femme dans une autre période de sa vie?
Il faut également prendre des antibiotiques, également.
Alors il y a un vrai problème, ce sont les femmes qui ont des cystites récidivantes. Des fois, elles se retrouvent dans des situations où elles n'ont pas d'ordonnance sur elles. Elles sont en véritable souffrance. Comment se fait-il que cette maladie, dans ce cas-là, est-ce qu'elle est considérée un petit peu comme chronique? Ou vraiment, à chaque fois, il faut une nouvelle consultation, une nouvelle prescription?
Alors, lorsqu'on fait des cystites à répétition et lorsqu'il y a eu plusieurs fois des antibiotiques mis, il faut quand même... Alors, bien évidemment, je sais très bien que les cystites souvent, elles surviennent le dimanche soir, à minuit, donc c'est difficile, mais dans l'idéal, c'est bien de faire une analyse d'urine, parce qu'il faut qu'on identifie le germe pour comprendre des fois pourquoi l'antibiotique ne fonctionne pas.
Mais là, c'est pas une simple bandelette, il faut aller faire...
Là, il faut faire une analyse
en laboratoire.
Quand on a fait plusieurs cystites et qu'il y a déjà eu des antibiotiques, les recommandations, c'est d'aller faire une analyse d'urine dans un laboratoire pour identifier le germe.
On fait un antibiogramme, on détermine la nature du germe.
Voilà, on détermine la nature du germe, et là, on va donner un antibiotique efficace pour traiter la cystite. cystite.
Alors, on a parlé de la cystite. D'autres symptômes, par exemple, des personnes qui ont du mal à uriner, problème d'évacuation des urines, ça peut être dû à quoi?
Alors, ça peut être dû, tout dépend de l'âge, hein. Ça peut être dû soit à un rétrécissement du canal par lequel on va uriner, ça peut être lié à la prostate, un gonflement de la prostate. Les hommes, lorsqu'ils vieillissent, leur prostate augmente de taille. Du coup, ça peut entraîner une obstruction. Ça peut être lié aussi à des causes neurologiques, hein. Vous avez des vessies qui ne se contractent pas suffisamment. Donc, tout dépend de l'interrogatoire et l'âge du patient, en fait.
Et justement, pour ces personnes-là, encore consultation d'un neurologue ou consultation d'un généraliste ?
Moi, je commencerai d'abord par un généraliste qui va permettre éventuellement de faire dans un premier temps un débrouillage et ensuite d'aller voir l'urologue avec l'accord du coup du généraliste.
Une question dont on n'a pas encore parlé, l'énurésie, communément appelée le pipi au lit, ça peut arriver à différents âges de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un à un âge où normalement ces sphincters sont donc en âge de retenir ces urines, en activité normale, comment se fait-il que des personnes ne réussissent pas à retenir ses urines, en particulier la nuit?
Alors c'est soit on a un sommeil qui est trop profond avec du coup des fois des patients du coup qui ne peuvent pas se réveiller ou qui ne ressentent pas l'envie d'uriner en fait. Donc du coup ils vont faire pipi la nuit. Alors souvent c'est quand même des patients qui déjà dans l'enfance faisaient déjà pipi au lit tardivement. C'est rarement quelque chose qui apparaît secondairement en fait.
On va tout de suite donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé. Et le premier de ces auditeurs nous appelle du Mali, de Bamako. C'est Kalilou qui est avec nous en ligne. Bonjour Kalilou.
Bonjour Caroline.
On vous écoute, le docteur Ben Bouzid vous écoute. Allez-y.
Bonjour. Okay. Bonjour docteur.
Bonjour.
Je disais à Caroline hier que je souffrais de ces maux-là depuis 2014. J'ai consulté un médecin généraliste. En plus, j'ai consulté aussi un neurologue. Donc, j'ai constamment des douleurs au niveau de la hanche. En plus de ces douleurs-là, j'ai eu comme l'impression que ces douleurs ont une liaison avec peut-être l'arbre urinaire. Parce qu'à chaque fois que j'ai des douleurs au niveau de la hanche, j'ai l'envie d'aller uriner.
Et Kalilou, excusez-moi, vous allez aux toilettes très souvent dans la journée? Vous allez uriner très souvent?
Oui. Très souvent même. Parfois, je pourrais même dire qu'à chaque 20-15 minutes, je vais aux toilettes pour pisser.
Alors, vous avez consulté des médecins. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme diagnostic?
Bon, là, le premier médecin que j'ai consulté m'a dit que c'est des calculs lithiales. Allô?
Et vous avez pris un traitement pour ces calculs qu'on appelle aussi calculs rénaux, c'est bien ça, docteur Ben Bouzid? Vous avez pris un traitement?
Oui, il m'a donné un traitement.
Et quel a eu comme effet ce traitement?
Bon, pendant le traitement, la douleur était partie. Mais juste après le traitement, j'ai commencé à ressentir les mêmes douleurs et puis la fréquence des urines. La fréquence des urines, les douleurs au niveau de la hanche. Je suis repassé voir le même médecin. Donc, il m'a prescrit la même ordonnance encore, quoi. Donc du coup, je suis allé voir un neurologue.
L'ordonnance, Kalilou, excusez-moi, cette ordonnance, c'est pour les douleurs ou c'est pour le problème? De quoi il s'agit exactement?
Bon, en réalité, c'était pour la douleur. Parce que quand je prends les médicaments qu'il m'a prescrits, je ne sens plus la douleur.
Mais quand vous les arrêtez, ça revient?
Voilà, quand j'arrête, ça revient.
Docteur Sabrina Ben Bouzid, qu'est-ce que vous pouvez dire à Kalilou?
Bonjour Kalilou. C'est pas typique d'avoir une douleur de hanche en urologie. C'est pas du tout les projections de l'appareil urinaire. Moi, votre douleur de hanche, elle m'évoque plutôt... Vous avez des antécédents de douleurs au niveau du dos, de l'imbago, de choses comme ça?
Oui, parfois le matin au réveil, il y a de fortes douleurs abdominales.
Abdominal. Vous êtes quelqu'un de constipé ou pas?
Bon, non, pas trop.
Parce que j'ai un petit peu de mal à rattacher votre symptomatologie En dehors du fait que vous allez faire pipi très fréquemment, avec cette douleur de hanche, ça, l'urologue qui vous a parlé de calcul, il a fait une imagerie, il a fait une échographie, ce qui lui avait permis de voir les calculs ou pas?
Bon, l'urologue, il m'a donné une analyse UCRM.
Une UCRM, d'accord.
Voilà, et la radio de la hanche.
Oui.
Donc, ils disent qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal.
D'accord, donc vous videz bien votre vessie, et a priori, là, il n'y a pas eu de récidive de calcul. Les calculs...
Voilà, c'était l'urologue a dit.
C'est ce que l'urologue a dit.
D'accord. Et l'analyse d'urine, elle a donné quoi? Pour voir s'il n'y avait pas de bactéries?
Bon, ça aussi, ça a été négatif, il n'y a pas d'infection.
D'accord.
Il y a fait HBU.
D'accord. Alors, dans les choses qui vont... Alors, moi, la douleur de hanche, je ne l'explique pas vraiment par un problème urologique. Par contre, pour ce qui est de la fréquence d'uriner, ce qu'il faut voir, c'est essayer de bien quand même vous hydrater. Hein. C'est 1,5 litre de boisson par jour. Hein. Il faut pas diminuer parce que souvent on a tendance à diminuer la consommation d'eau, ce qui va entraîner une rétraction aussi de la vessie. Donc ça, il faut quand même bien vous hydrater, surtout s'il a été évoqué des calculs. Hein. Ça veut dire que peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau. Il faut éviter tout ce qui va contenir du café, de la théine, ne pas être constipé. Évitez également les aliments très épicés. Ça, c'est des choses à faire.
Sur la douleur, c'est compliqué.
Sur la douleur, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai du mal
à la rattacher
aux symptômes. Ça colle pas trop avec un problème urologique. Après, je me doute que vous avez mal. De même que les brûlures, faut quand même bien vous hydrater aussi. Hein. C'est indispensable, surtout si on vous a évoqué des calculs, monsieur.
Voilà, Kalilou. On vous souhaite une bonne journée à Bamako, au Mali. On va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo, Kinshasa, où l'on rejoint Karine. Bonjour, Karine.
Bonjour.
Le docteur Ben Bouzid vous écoute.
Bonjour, madame.
Oui, bonjour, docteur Ben. En fait, moi, mon problème aussi, je pense que c'est un problème urinaire. Je voudrais dire ceci. En fait, c'est un problème qui remonte à plus de 10 ans. Et je suis tout le temps en train de faire des infections à répétition. Alors, à un moment, j'ai commencé à discuter avec les médecins parce qu'il n'y avait pas de solution et que tout le temps, c'était des antibiotiques. Et quand j'allais faire des examens, un antibiogramme, parce que je faisais ça presque tout le temps, il y avait toujours ce E. coli, cette cystite, et puis il y avait aussi d'autres genres d'infections, streptocoque, staphylocoque, tout et tout. Et après, j'ai commencé à faire des recherches toute seule parce que j'en avais marre des antibiotiques. J'en pouvais plus, j'avais tout le temps des douleurs au bas-ventre. Enfin, j'ai tout le temps des douleurs au bas-ventre quand je fais une infection. Et quand je vais voir mon médecin, je pense que mon médecin s'était fatigué de moi, quoi. Il a commencé à me dire tout le temps: oh, mais madame, je pense que cette fois-là, ça doit être psychologique, ou que cette fois-là, tu n'as rien. Une fois, je suis allée en consultation, mon médecin, il a dit, je vais te faire des examens. J'ai fait des examens, il n'y avait rien. Pendant que j'avais très, très mal au dos, au bas-ventre. Et je suis allée voir un ami à moi qui est laborantin, qui a l'habitude de me faire des examens. Il a vu que j'avais une infection. C'était staphylocoque plus E. coli. Alors, je suis en fin de compte allée rencontrer un médecin généraliste qui, lui, je lui ai remis les résultats et il m'a prescrit des médicaments. Mais la douleur avait pris 2 mois avant que je ne prenne des médicaments et j'ai commencé à avoir un mal de dos terrible et même aux articulations. J'arrivais même plus à marcher, mal aux genoux, mal au dos et puis mal dans toutes les jambes, en fait.
Et aujourd'hui, aujourd'hui Karine, vous vous sentez comment? Comment est-ce que ça va aujourd'hui?
Aujourd'hui, je peux pas dire que je me sens tout à fait mieux, mais ça va un peu parce que sur Internet, j'ai vu qu'on avait des produits, des probiotiques que j'ai commencé à prendre. J'ai commandé à partir de l'étranger. Quand j'ai commencé à prendre ces produits, j'ai vu qu'il y avait quand même une certaine amélioration. C'était Progyne, le nom du produit. Et l'amélioration, c'est beaucoup plus au niveau du vagin. Donc, il n'y a plus de mycose, ça gratte plus. Mais au niveau du bas-ventre, en tout cas, je peux vous dire que la douleur revient tout le temps. Bon, j'aurais appris qu'il faudrait prendre les probiotiques continuellement, ce qui n'est pas facile, mais au niveau du vagin, je peux dire que la douleur et puis les prurits étaient partis. Voilà un peu.
Docteur Ben Bouzid, alors, Est-ce qu'on peut parler, dans le cas de Karine, d'une cystite récidivante?
Tout à fait, c'est là ce que vous décrivez, ce qu'on appelle les cystites chroniques. Alors, il faut savoir que les femmes, on n'est pas toutes égales, hein, par rapport à la cystite. Il y a des femmes, elles vont pas boire, elles vont être constipées, elles vont pas uriner après les rapports sexuels, elles n'auront pas de cystite. Puis il y en a d'autres, malheureusement, c'est pas le cas. Alors, vous, dans votre cas de figure, il y a ce que vous devez faire tout le temps, madame Karine, c'est vous devez boire 2 litres de boisson par jour, vous ne devez pas être constipé, vous devez uriner systématiquement après les rapports sexuels. Et effectivement, comme vous le faites, de prendre des probiotiques, c'est très bien, ça va réguler le transit. L'autre chose aussi, ce qu'il faut insister, c'est prendre également du cranberry, notamment après les rapports sexuels. Le cranberry, c'est une baie. Il faut prendre des concentrés, parce que le jus, ça sert à rien. Hein. Il faut boire 3 à 5 litres de jus pour que ce soit efficace.
Donc et on oublie le jus, parce que moi aussi, je croyais que c'était le jus qui était suffisant. Et
Non, c'est pas assez concentré. De même que les baies non plus, c'est pas assez concentré. Il faut acheter, ça se vend sur Internet ou en parapharmacie ou en pharmacie, et c'est 36 mg qui va être efficace.
C'est sous forme de gélules?
De gélules. Ou de poudre, ça dépend la présentation. À prendre le soir, parce que du coup c'est sécrété au niveau des urines et ça va empêcher notamment l'Escherichia coli, qui est le germe qu'on retrouve le plus fréquemment dans les cystites, de s'accrocher à la paroi de la vessie. Par ailleurs, j'ai vu que on vous a évoqué également que c'est un problème d'hygiène. Non, madame, c'est pas un problème d'hygiène. Il faut pas la toilette intime, c'est une fois par jour avec de l'eau. C'est pas la peine d'aller se décaper avec des savons agressifs, parce que du coup ça va entraîner, comme vous l'avez dit, des mycoses, des choses comme ça. Les cystites, c'est parce qu'on a une paroi de la vessie qui va accrocher plus facilement les germes, et c'est pas un problème d'hygiène. Ça, il faut pas le penser. Par ailleurs, quand on fait comme vous autant de cystites, madame, nous, ce qui est recommandé en France, c'est lorsqu'on a fait plus que 4 cystites par an, ce qui est déjà largement votre cas, c'est de mettre en route des antibiotiques sur une longue période, pendant 6 mois, de façon à ce que la vessie cicatrise. Parce que quand on a une vessie qui fait autant d'infections, on a de l'inflammation locale. Et cette inflammation, elle va favoriser l'accrochage des germes. Donc il y a 2 antibiotiques en France qu'on va donner, parce qu'ils vont pas sélectionner des germes, et surtout ils vont être bien tolérés. Et on les donne pendant 6 mois.
Parce que souvent on a un petit peu peur, quand on prend des antibiotiques au long cours, d'avoir notamment des problèmes digestifs, et puis voire même on parle de résistance. Alors,
tout à fait.
On croit que plus on les prend longtemps, plus après on va être à risque d'attraper d'autres infections.
Alors c'est effectivement ce qu'on pense, mais c'est pour ça qu'il n'y a que 2 antibiotiques qu'on peut prescrire.
C'est bien précis.
C'est bien précis, c'est ces 2-là. Pourquoi ? Parce qu'ils respectent la flore intestinale, la flore vaginale, et ils ne vont pas entraîner de résistance. Et d'ailleurs, moi, quand on prend ces antibiotiques, je conseille à la patiente de prendre des probiotiques intestinaux et vaginaux au cas où, pour apporter du confort.
Voilà, Karine, pour ces conseils. Vous avez déjà essayer des cures d'antibiotiques au long cours, justement, pour essayer d'enrayer ce processus de cystite récidivante?
Non, pas du tout. Mes médecins, ils m'ont souvent donné des antibiotiques pour une période de 2 semaines à peine, mais au long cours, jamais.
Voilà, en tout cas ce conseil, et puis le conseil du docteur Ben Bouzid, continuez avec ce que vous faites au niveau des compléments, hein, comme ces probiotiques, et peut-être aller voir vers des concentrés de cranberry qui pourraient également améliorer votre situation au quotidien. On vous souhaite une très bonne journée à Kinshasa. On part pour le Niger, où l'on retrouve Dantani qui est à Tawa. Bonjour Dantani.
Bonjour.
On vous écoute, Dantani.
D'accord, je dis bonjour à docteur.
Bonjour.
Ça va, moi, mon problème, c'est vraiment l'incontinence de l'urine. Donc, si je suis là, si j'ai envie d'aller uriner, dès que je me lève pour aller vers les toilettes, je n'arrive plus à contenir l'urine.
Dantani, vous allez combien de fois par jour aux toilettes, s'il vous plaît, pour uriner?
4-5 fois. La journée.
Est-ce que avant d'aller aux toilettes, vous vous retenez pour ne pas y aller trop souvent, ou vous y allez vraiment dès que l'envie se fait ressentir?
Oui, dès que l'envie se fait sentir, je pars pour ne pas trop garder, parce que quand je garde ça longtemps, il va arriver un moment où je ne peux plus me concentrer et garder l'urine.
Et est-ce que vous savez combien vous buvez d'eau par jour? Quelle quantité?
Bon, moi, je ne consomme pas trop d'eau. Je fais 2-3 litres par jour. C'est parce que moi, je ne consomme pas trop d'eau. C'est une remarque que j'ai faite.
Vous dites 3 litres, c'est quand même pas mal. Vous buvez 3 litres par jour?
Oh, en tout cas, oui, parce que j'ai des bidons de 2000 litres que je garde dans mon bureau. C'est ça que je prends. La journée, je peux tenir les trois.
Vous prenez des bouteilles d'eau dans votre bureau. Il fait... Vous travaillez dans un lieu où il fait très chaud?
Non, je suis sur la climatisation.
La climatisation. Docteur Sabrina Benbouzid, qu'est-ce que vous pouvez dire à Dantani?
Bonjour. Alors, si vous travaillez pas dans un endroit qui est très chaud, boire 3 litres d'eau par jour, c'est excessif, hein. C'est 2 litres, hein, ce qui est recommandé. C'est entre 1 litre et demi, 2 litres d'eau. Alors, effectivement, s'il fait chaud, etc., je conçois qu'on peut augmenter les apports. Mais là, si vous me dites que vous êtes dans un endroit qui est climatisé, ça me paraît excessif, votre consommation d'eau. Ensuite, si vous buvez 3 litres d'eau et que vous faites pipi que 4 fois dans la journée, c'est peu par rapport à cette quantité d'eau que vous assimilez. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller, donc, déjà, d'une part, diminuer votre consommation d'eau, de passer à autour de 2 litres de boisson, d'éviter tout ce qui est thé et café. Pareil, ça va donner envie d'aller faire pipi beaucoup plus rapidement, en fait. Ça donne un peu ce qu'on appelle des urgenturies, c'est-à-dire des envies pressantes et assez brutales. Donc, diminuer de ce côté-là.
Est-ce qu'on peut dire à Dantani, peut-être, de ne pas attendre d'avoir envie?
Tout à fait.
D'aller aux toilettes, voir si l'urine, si ça vient ou pas, et puis de ne pas rester dans cette situation quasiment où il va angoisser à l'idée d'avoir ce problème.
Tout à fait. Moi, je vous conseille, c'est d'aller faire pipi toutes les 2-3 heures et de ne pas attendre que l'envie arrive. Ça va permettre un petit peu de diminuer. Enfin, là, du coup, vous avez créé un espèce de réflexe qui fait que dès que vous avez envie de faire pipi, vous courez aux toilettes et vous n'arrivez pas à vous retenir. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper le problème, donc diminuer votre consommation d'eau et surtout y aller avant que l'envie se fasse survenir.
Dantani, est-ce que vous êtes prêt à entamer cette petite rééducation, si on peut dire ainsi?
Une petite
rééducation, je disais, changer vos habitudes.
Oui, bon, en tout cas, oui, parce que comme elle a évoqué le thé, le café, c'est des choses que je consomme beaucoup. Vraiment, oui, je prends beaucoup de thé, je prends du café.
Donc, abandonner certaines mauvaises habitudes et en prendre de nouvelles qui pourront vous aider très certainement à régler votre problème. On vous souhaite une très bonne journée à Tawa. On part pour le Tchad, à Béché, où l'on retrouve Yaya. Bonjour Yaya.
Oui, bonjour Caroline. Bonjour docteur.
Docteur, vous écoute, allez-y.
Oui, j'ai une question et ma question c'est de savoir, j'ai un de mes petits frères qui a un taux nutritionnel acide désirie depuis sa naissance. Et je ne sais pas comment expliquer cette désirie. J'aimerais savoir la cause de son trouble nutritionnel. Est-ce qu'il s'agit d'une anomalie de l'appareil urinaire ou un problème sexuel?
Yaya, votre petit frère, il a quel âge aujourd'hui?
Maintenant, il a 5 ans.
Il a été circoncis?
Non, pas encore.
Il n'est pas circoncis? Alors, docteur Benbouzid, en fonction des éléments que nous a donné Yaya, peu de choses. Vous dites, il a mal quand il va uriner, c'est ça?
Oui, il a la notion de goutte à goutte.
Goutte à goutte.
Alors, votre petit frère, son prépuce, est-ce qu'il est serré? Est-ce qu'il a déjà été examiné par un médecin, votre petit frère?
Non, pas encore. Il n'est pas examiné par une Europe.
Non, mais même par un médecin, voir s'il arrive à se décaloter ou pas?
Oui, c'est ça. On peut le décaloter. Le décalotage est possible.
On peut le décaloter.
On peut le décaloter, d'accord. Alors, effectivement, il peut y avoir un peu... Soit c'est une infection qui est... donc ça, il faut éliminer l'infection. Ou bien, effectivement, il peut y avoir un rétrécissement du canal. Alors, soit c'est à l'orifice, soit c'est plus à l'intérieur. Donc ça, il faudrait qu'il soit vu par un médecin, hein, votre petit frère. Hein.
Est-ce que vous avez la possibilité, Yaya, de l'accompagner avec votre maman pour voir un médecin, pour justement essayer de savoir s'il a un problème constitutif, justement, dans son anatomie?
Oui, c'est possible, oui.
C'est possible.
C'est important parce que du coup, s'il a effectivement un rétrécissement de son canal par lequel il fait pipi, ça veut dire qu'il risque de pas bien vider sa vessie et surtout à terme, il va esquinter ses reins. Donc c'est important qu'on s'assure que le canal, il est bien perméable. Et ou éventuellement, si c'est pas le cas, qu'on propose une solution à votre petit frère.
Okay,
voilà, ce conseil d'aller consulter. On vous souhaite une bonne journée à Abéché. On retourne en République démocratique du Congo à Kinshasa, où l'on va retrouver Dieu merci. Bonjour Dieu merci.
Bonjour Effie, bonjour docteur.
On vous écoute.
Bonjour.
Allez-y.
Oui. Docteur, J'ai mal quand je fais à chaque fois quand je me rends à l'urinoir pour faire les petits besoins. Mm-hmm. J'ai toujours mal. J'ai toujours mal, vraiment. Je me suis rendu dans des hôpitaux, mais rien ne marchait. On m'a prescrit les médicaments, je prends les traitements, mais rien ne marche.
Alors, est-ce qu'on vous a fait une analyse d'urine ?
Non.
Parce que, effectivement, si on vous donne, là, l'antibiotique qu'on a dû vous donner, c'est un antibiotique standard. Donc, il y a certains germes qu'on peut avoir qui, du coup, peuvent résister à cet antibiotique. Donc, et ça peut expliquer pourquoi vous avez toujours ces brûlures, toujours ces envies pressantes d'aller faire pipi. Est-ce que vous avez également des écoulements, des petites sécrétions qui sortent en plus?
Non, les écoulements, non. Mais c'est juste que lors de faire les petits besoins, mm-hmm. Tant que j'ai mal.
Est-ce que vous avez la possibilité justement d'aller dans un centre de soins où vous pourrez faire ce prélèvement d'urine pour qu'il y ait des analyses ensuite ?
Oui.
Oui, c'est possible. Vous avez par exemple les moyens de payer cette analyse, c'est possible ? Parce que des fois ça peut être un petit peu compliqué.
Oui, ça sera possible.
Ça sera possible, c'est important comme ça pour vous débarrasser de cette douleur au quotidien parce que ça doit être vraiment pénible à vivre sur une période aussi longue. J'ai une question par rapport à ce que nous dit Dieu merci, docteur Sabrina Benbouzid. Quand quelqu'un, c'est peut-être une question que se posent aussi des auditeurs, a ce type d'infection, est-ce que il peut y avoir une transmission de certains germes lors d'un rapport sexuel ?
Tout à fait. L'arrière-pensée que j'ai, c'est que ça peut être une infection sexuellement transmissible. Donc c'est indispensable de voir si c'est pas ce type de germe parce que le problème c'est que si vous ne traitez pas également votre partenaire, vous allez systématiquement être réinfecté. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable de voir si c'est pas une infection sexuellement transmissible, ensuite de la traiter et traiter également votre partenaire de façon à ce que bah du coup elle ne revienne plus cette bactérie.
Parce qu'on dit infection, mais ça peut être infection urinaire ou IST. Dans ces cas-là, la prise en charge n'est pas du tout la même.
Tout à fait. Quand c'est une infection urinaire standard, il n'y a pas besoin d'aller dépister le partenaire. Tandis que lorsque c'est une MST, il faut dépister le partenaire. Parce que sinon, il va y avoir une recontamination et du coup, une récidive des symptômes de façon chronique.
Dieu merci. On vous avait dit justement dans le centre de santé s'il s'agissait plutôt d'une IST, d'une infection sexuellement transmissible ou d'une infection urinaire. On avait distingué les deux ?
Moi, on me disait que seulement ce sont les infections.
C'était les infections. Mais infection, oui. Sous le mot d'infection, il y a énormément de choses. Hein. Même quand on se fait une plaie au doigt et que ça s'irrite, ça s'infecte, c'est aussi une infection. Ça veut juste dire qu'il y a une bactérie. Hein.
Peut-être.
Donc ça peut être de multiples sources. Donc ce conseil vraiment d'aller faire ces analyses d'urine, c'est important pour que justement on puisse vous donner le traitement tout à fait adapté. On vous souhaite une très très bonne journée. Dieu merci. Pour bien fixer les choses, il y a aussi des produits qui sont déconseillés pour éviter ce type de douleur. J'ai lu par exemple les spermicides. Pourquoi certaines personnes peuvent mal réagir à des spermicides ? Ça peut créer certaines douleurs. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Parce qu'il y a aussi pas mal d'idées fausses qui circulent à ce sujet.
Le spermicide, ça peut effectivement entraîner une irritation locale chez la femme.
C'est pas forcément, mais par exemple, par rapport aux cystites qu'on associe parfois justement à l'activité sexuelle. Justement, comment faire pour que finalement cette relation sexuelle ne se transforme pas le lendemain, le surlendemain, systématiquement en cauchemar au moment d'aller uriner?
Alors, le mécanisme, c'est qu'au moment de quand le partenaire pénètre sa femme, en fait, chez la femme, le canal urinaire est très court. Donc, en fait, au moment de l'acte, il y a une ouverture du canal urinaire. Donc, c'est pour ça que les germes peuvent remonter dans la vessie. Donc, moi, ce que je conseille aux patientes, c'est d'uriner dans l'heure après le rapport sexuel, de se laver juste avec de l'eau et ensuite de bien boire et éventuellement de prendre du cranberry en concentré, c'est 36 mg, après le rapport sexuel.
Voilà, une ordonnance assez simple à suivre, tout finalement. On va tout de suite partir pour le Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Cyril Kamadjou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Alors, quels sont les troubles urinaires, docteur Kamadjou, pour lesquels les personnes viennent consulter le plus souvent dans votre service ?
Alors, en ce qui concerne les troubles urinaires de l'homme, c'est essentiellement les pathologies liées à la prostate. Comme vous le savez, à partir d'un certain âge, certains hommes se plaignent de se lever souvent la nuit, d'avoir un jet urinaire faible. Donc, ce sont essentiellement ces personnes qui nous consultent. Nous avons également, chez des patients un peu plus âgés, le cancer de la prostate. Et parfois, et malheureusement au Cameroun, les patients arrivent à des stades tardifs. Et donc, ce sont des patients qui développent des complications de type des fractures osseuses, ou des insuffisances rénales liées à des compressions urétérales. Pour ce qui concerne la jante féminine, ce sont essentiellement des infections urinaires à répétition qui sont soit liées à la présence de corps étrangers dans la vessie et parfois également à des pathologies tumorales comme des polypes de vessie qui se rencontrent encore fréquemment au Cameroun.
Quand vous parlez de corps étrangers dans la vessie, de quoi s'agit-il ?
Ce sont essentiellement des calculs, hein. Donc ce sont des calculs urinaires, surtout au Cameroun, dans certaines régions, notamment dans les régions du Nord. Beaucoup de patients développent des calculs au niveau de l'appareil urinaire supérieur, donc dans les uretères, dans les reins, mais également dans la vessie. Et nous avons également des hommes qui peuvent développer des calculs dans la vessie liés essentiellement à la stase urinaire. Donc ces personnes qui ont des difficultés à éliminer les urines développent par la suite des calculs urinaires liés à la stase urinaire.
Est-ce que la médecine traditionnelle ou des remèdes non médicamenteux, non pharmaceutiques sont employés pour lutter contre ce type d'infection?
Oui, bien évidemment. Et c'est là, je dirais, le gros problème que nous avons ici au Cameroun, c'est que nous avons beaucoup de patients qui, avant de consulter l'urologue que je suis, vont consulter justement ces tradipraticiens qui ont toutes sortes de potions magiques, je dirais, pour traiter ces pathologies. Bien évidemment, les patients nous reviennent parfois très très tard avec des complications, puisque ces médicaments, je dirais, ne traitent pas les pathologies que nous traitons.
Alors, vous êtes chirurgien, vous préconisez aussi, bien sûr, des médicaments, mais au-delà de l'ordonnance, est-ce que vous donnez des conseils et un certain nombre, on va dire, de règles, docteur Kamadjou, en termes d'hygiène de vie?
Oui, bien évidemment. Je pense qu'il faut, en ce qui concerne l'urologie, s'hydrater de manière conséquente. Donc, nous conseillons à nos patients de boire en général entre 2 à 2 litres et demi par jour, d'avoir une activité sportive régulière, éviter la sédentarité, manger bio. Mais bon, ça concerne toutes les spécialités, pas forcément l'urologie. Et en ce qui concerne surtout la prévention, nous en parlons tout à l'heure avec les tradipraticiens, c'est de conseiller aux patients de consulter dès que les symptômes arrivent. Parce que nous avons un gros problème ici, c'est que beaucoup de pathologies sont prises à des stades avancés pour lesquels il est difficile pour nous de pouvoir mettre en route un traitement thérapeutique. Donc dans la prévention, je dirais à tous les patients, sur ceux qui nous écoutent, de consulter dès que possible l'urologue, dès que les symptômes apparaissent, que ce soit les symptômes urinaires de dysurie, c'est-à-dire de difficulté à uriner, diminution du jet urinaire, la présence de sang dans les urines. Hein. Beaucoup de gens pensent qu'il est normal d'avoir du sang dans les urines. Donc toutes ces pathologies, tous ces symptômes qui concernent les voies urinaires, ne pas hésiter à consulter dès que possible.
Vous disiez traitement tardif, prise en charge tardive. Est-ce que la dimension culturelle, le tabou autour de cette sphère, de ces questions, pose aussi problème en termes de prise en charge, docteur Kamadjou? Est-ce qu'il faut aussi lancer un message pour dire aux gens, on peut parler de tout et on peut soigner toutes les parties du corps?
Absolument, absolument. Et là, je dis, et il y a une phrase que je dis souvent à tous mes patients, nous sommes, je dirais, dans la bonne spécialité. Donc, il n'y a pas de tabou en urologie, on doit parler de tout. Et c'est vrai que beaucoup de patients ont du mal à discuter des symptômes, et c'est souvent... Très, très souvent en fin de consultation, lorsque le malade est prêt à sortir du cabinet de consultation, qu'il se rappelle que oui, il y a tel symptôme que j'ai oublié de dire, notamment en ce qui concerne les érections ou d'autres pathologies. Également chez la femme, l'incontinence urinaire d'effort est un trouble que l'on voit fréquemment, qui existe, mais au Cameroun, assez curieusement, les femmes n'en parlent pas, parce que c'est tabou d'avoir des fuites urinaires. Donc, je profite justement de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas de sujet tabou, notamment en urologie, il faut avoir le courage de parler de tout avec son médecin parce que des solutions existent.
Un médecin peut tout entendre.
Absolument.
Merci beaucoup, docteur Cyril Kamadjou. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala.
RFI à Douala, 97.8 FM.
On aborde la dernière partie de cet échange avec vous, docteur Sabrina Benbouzid. Justement, on n'a pas parlé de cette question de l'incontinence avec vous. Ça fait souvent d'ailleurs l'objet d'émissions à part entière dans Priorité Santé. C'est vraiment un sujet en tant que tel. On revient sur cette dimension culturelle du tabou. Pourquoi, quand on est mère, quand on est parent, on parle sans problème de l'appareil urinaire, des urines de son bébé, et quand on avance en âge, eh ben c'est le blackout.
Il y a effectivement, c'est vrai. Alors il y a effectivement, comme vous le dites, ça touche à l'intimité. C'est très difficile d'aller dire j'ai des fuites urinaires, j'ai besoin de porter des couches comme mon enfant. Souvent aussi les femmes se disent voilà, ma mère, ma grand-mère souffrait d'incontinence, donc c'est normal que j'en ai. Alors qu'en fait il existe des solutions. Il faut en parler avec son médecin. Hein. On peut proposer des solutions parce que en fonction du type d'incontinence, on va aller soit sur de la chirurgie, soit proposer de la rééducation du périnée, soit proposer certains médicaments. En tout cas, on peut pas laisser la patiente dans cette détresse, c'est indispensable de verbaliser les choses.
On parlait de ce tabou avec votre confrère de Douala au Cameroun, c'est vrai aussi ici. Hein.
Tout à fait. Moi, en consultation, régulièrement, les patientes me disent « voilà, j'ai pas voulu consulter tout de suite parce que ma mère souffrait de ça. Finalement, j'ai entendu à la radio ou à la télé, j'ai vu que finalement, peut-être qu'une solution existait. Donc, c'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. » Et souvent, quand on a traité la patiente, la phrase qui revient souvent, c'est « je comprends pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ».
C'est aussi un conseil à donner aux autres, celles qui entendent ce genre de phrases, il faut consulter, il y a des solutions parce que ça peut véritablement nuire au quotidien, perturber complètement
la
qualité de vie.
Vous avez des femmes, elles arrêtent de faire du sport parce qu'elles ont des fuites urinaires, elles s'empêchent même des fois de rigoler. Parce qu'elles ont des fuites urinaires. C'est votre qualité de vie qui est complètement remise en question. Par ailleurs, lorsqu'il y a des patientes aussi, elles ne sortent plus de chez elles parce qu'elles ont des envies pressantes ou elles sont obligées de baliser leur parcours avec le repérage des toilettes. Donc du coup, elles ne sortent plus de chez elles. Tout ça, c'est pas normal. On doit consulter.
Pour conclure, une question qui concerne à proprement parler la France, le projet de loi de santé pourrait autoriser les pharmaciens à délivrer certains médicaments qui sont normalement donnés sur ordonnance, donc sans passer par un médecin. On pense en particulier justement, ce dont on parlait tout à l'heure, des antibiotiques pour la cystite. Est-ce que vous pensez, vous, urologue, que c'est une bonne chose? Ça se fait déjà dans d'autres pays, hein. Ça se fait encore en Suisse ou au Canada, les pharmaciens qui délivrent des médicaments normalement qui sont de classe, qui nécessite consultation. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, j'en pense, mon avis est mitigé là-dessus. D'un côté, je me dis que c'est très bien de rendre service à cette patiente qui est en détresse le soir et qui a une cystite, qui souffre horriblement et qui peut pas attendre le rendez-vous parce que le médecin est booké jusqu'à la fin de la semaine. Donc effectivement, je trouve tout à fait normal que le pharmacien délivre du coup ce médicament. Après, si ça revient de façon chronique, il va falloir consulter. Et le problème, c'est est-ce que le patient va consulter le même pharmacien qui du coup va...
Est-ce qu'on pourra repérer le suivi?
C'est ça le problème. Est-ce que du coup, si elle va consulter le même pharmacien, lui, à un moment donné, va sonner l'alarme en disant « Madame, là, ça va faire 4 fois que vous venez me voir ce mois-ci, il va falloir consulter ». Par contre, si vous avez une patiente qui va aller voir différents pharmaciens, du coup, il n'y a pas de traçabilité.
Et ça peut compliquer l'affaire.
Voilà, ça va compliquer les choses. Et du coup, c'est là-dessus que je suis... pas forcément d'accord avec le fait de les livrer comme ça des ordonnances, des médicaments sans ordonnance.
Merci beaucoup, docteur Sabrina Benbouzid. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue à l'hôpital Tenon à Paris. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Priorité santé sur RFI.
Des opérations chirurgicales, une initiative baptisée Stop Sténose Caustique de l'œsophage chez l'enfant au Mali. Alors derrière ce slogan, ce sont ces graves séquelles qui affectent l'appareil digestif suite à l'ingestion accidentelle de produits chimiques, précisément de la soude caustique. Pour améliorer le quotidien des enfants victimes de ces accidents domestiques, eh bien une mission chirurgicale vient spécialement de se rendre au Mali, mission organisée par la chaîne de l'espoir. Et pour en parler avec nous, le professeur Sadio Yena. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Vous êtes chef de service à l'hôpital du Mali, coordinateur de l'initiative. Alors avant de parler de ces opérations, deuxième mission qui va se terminer le 24 avril, professeur Yena, cette sténose caustique de l'œsophage, de quoi s'agit-il?
Alors en trois mots, on a trois mots clés.
la sténose, qui veut dire un rétrécissement, caustique, qui veut dire que c'est quelque chose qui brûle, qui est corrodant, qui blesse, et trois, œsophage, qui est un segment du tube digestif, un canal qui lie la bouche à l'estomac. Donc, en résumé, c'est un rétrécissement de ce canal lié à l'ingestion de ces produits caustiques. Ça entraîne une soif, un rétrécissement, donc l'enfant ne peut plus boire, l'enfant ne peut pas manger, et quand c'est très poussé, l'enfant ne pourra même pas avaler sa salive. Donc l'histoire naturelle de la maladie se fait doucement vers la mort avec une dénutrition, avec une mort ayant un enfant avec la faim.
Alors, on va bien sûr parler de ces opérations, mais ce qui est important de dire tout de suite, c'est de faire passer ce message de prévention. Quels sont les produits incriminés et quels sont surtout ces produits à mettre hors de portée des enfants et dans des emballages, dans des bouteilles que l'on ne peut pas confondre avec de la boisson, professeur Yéna?
Oui, merci madame. Ça, c'est une question très importante en tant que produit. Il s'agit de produits à base de base, qui sont des acides, qui sont des corrodants, des oxydants, mais il faut surtout les lier aux professions. Il faut savoir que c'est des activités génératrices de revenus avec des ménages en Afrique, notamment au Mali, surtout des femmes. Notamment la teinture du textile, notamment la teinture du bavin, qui est très répandue au Mali et en Afrique, la fabrique de savon, la saponification. Dans la cuisine aussi, il y a des recettes culinaires qui utilisent ces produits, nous on les appelle tour séguet. Et puis il y a tout ce qui est élevé de beauté de la femme, notamment les coiffures, les défrivages et les tatouages, notamment le tatouage du aîné qui est un produit qu'on appelle Apollo. Il y a aussi les produits d'acide qu'on utilise pour le nettoyage, du carreau, des toilettes, des produits pharmaceutiques parfois, la pénoniamate, le javel ou l'eau oxygénée. Donc vous voyez que c'est des produits qui se trouvent partout, dans nos maisons, le travail, des femmes, et qui interviennent dans des activités qui apportent de l'argent dans les ménages. Donc c'est très important de connaître leur gravité, leur danger, de les conserver et notamment les mettre à portée des...
Hors de portée des enfants. Professeur Sadio Yéna, j'espère que les auditeurs entendent bien parce que la qualité de la ligne se dégrade vraiment. Ce dernier point, bien sûr, sur les opérations. Est-ce que ces opérations présentent des risques particuliers? Une fois que l'enfant est opéré, il peut sortir au bout de combien de temps?
Alors, l'enfant, après l'intervention, l'enfant dit il sort de l'hôpital une semaine plus tard, mais il va rentrer dans la vie active 3 semaines plus tard. Donc, grosso modo, disons 4 semaines de l'intervention à ce que l'enfant puisse aller éventuellement à l'école. Donc, c'est des interventions qui réussissent et qui font que l'enfant va manger normalement.
Au bout de combien de temps il peut se réalimenter normalement?
8 jours.
Au bout d'une semaine. Donc, c'est vraiment des résultats très importants. Finalement, une convalescence assez réduite, des effets vraiment très importants de cette chirurgie de l'œsophage. Merci beaucoup, hein. Merci professeur Sadio Yéna pour ces explications. Je rappelle que vous êtes chef de service à l'hôpital du Mali, coordinateur de l'initiative Stop Sténose Caustique de l'œsophage chez l'enfant au Mali. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise cette émission Priorité Santé. C'est tout ça, Maki, Ophélie Lassène, Didier Bleu aujourd'hui, Laurence Snow. Lundi, vous pourrez réécouter l'émission que nous avions consacrée au bégaiement. Excellente journée à toutes et à tous à l'écoute de RFI.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Comme nos clients dans plus de 14 pays, profitez d'une assurance santé toute option où que vous soyez. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunou Assurance, notre métier, l'assurance.